I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventuriers, bienvenue à la table des fabulistes pour un nouvel épisode du Cercle des héros.
Oui, t'as une question, moi j'écoute.
En fait, je voudrais des dates au moment de l'écriture du journal, quel jour on est.
Parfait.
Tu sais ce qu'on peut faire ? On peut aller sur Spotify, puis mettre le lien recherche et mettre les fabulistes.
Les fabulistes, jeu de rôle.
JDR. Oh.
Quelle belle page.
Épisode 10 sorti. Sauvetage pour une rose. Oh. Et
les
on peut mettre l'épisode 1.
Incroyable.
Un an plus tôt, on est à la 910e année. On sera à la 911 le jour de la reine. C'est bon, on est à la 910e année.
On est en quelle saison ?
On est
en automne, apparemment.
Non, parce que c'était la fête des pommes, donc automne, ouais.
Quatrième hivernée, 910e rotation.
Ouais, trop cool.
Il neige.
T'enregistres ?
Ok.
Un podcast franchouillard.
T'es
calme, qui me passe le saucisson.
Quatrième hivernée, 900.
Recommence.
Deuxième prise.
Ça va bien se passer, tu vas y arriver, mon pépère. Quatrième hivernée, 910e rotation, il neige. Voilà de nombreuses semaines que je n'ai pas pris le temps d'écrire dans ce journal. En vérité, la dernière entrée date du 8 automnal, voilà plus de 4 mois. Est-ce à cause du manque de temps ou parce que je suis séparé des autres ? Je ne saurais le dire. Peut-être faut-il que je revienne quelque peu en arrière. 4 mois plus tôt, donc, nous vivions l'explosion du mal d'Olo, contenu à grand mal jusqu'à ce jour par l'intervention de tous. À notre retour, faisant rapatrier au cercle tous les sangs azur par la même immunisée, Minéas avait rapidement organisé des troupes d'intervention afin de contenir ce mal mystérieux. Et à la tête de chaque troupe de sang azur, un membre de notre promotion. Keyal, Sol, Moyo Koyotsin et Nova sont devenus des généraux et luttent depuis pour sauver le monde en véritables héros. Quant à moi, bien sûr, Minéas me réservait un sort à ma mesure. Étudier à la citadelle, noyer mon impuissance dans les études et les bouquins, ou perdre mon temps à couper les ongles de pied de Préjus Niftelin, mon maître d'études, pour mieux réapprendre ma place. Et qu'ai-je appris d'utile ? Je peux désormais disserter sans fin sur les 257 sortes d'hortensias et leur période de floraison. Je connais mieux que personne les caractéristiques de la semelle gauche des soldats d'or pleine sous la 5e dynastie. Mais toujours rien sur ce fichu mal d'Olo. Nova et moi nous écrivons tous les jours. Elle me parle de Mu, du fait que depuis son pacte pour me sauver, elle peut dorénavant communiquer avec lui. Malheureusement, il ne semble pas encore enclin à répondre aux questions importantes. Tant qu'à parler de Nova, je m'en voudrais de passer sous silence l'une de ses premières missions héroïques. Elle a sauvé la banque des héros, ses économies du moins, et Walter Binks, son président, de même que plusieurs employés. Je suis extrêmement fier d'elle. Je sais pourtant qu'elle a perdu aussi quelques soldats sous son commandement lors de cette mission et... je ne sais pas encore comment elle l'a vécu. J'espère qu'elle a su faire la part des choses. On s'écrit aussi beaucoup avec Moyo. Souvent pour parler de Cidre. C'est mon bol d'air, mon espoir et mon mystère personnel. Lorsque nous avons appris que notre Cidre était vendu jusqu'à Roche-sous-Puits, nous avons mené l'enquête, évidemment. Il s'est avéré qu'un certain Labarbe se faisait passer pour notre commanditaire et avait organisé un réseau de distribution de notre production à toute épreuve. Il y a engagé un grand nombre des mouches des rues et paye d'ailleurs très bien chacun des rouages de son réseau de distribution. J'hésite entre m'offusquer de cette usurpation d'identité et la joie à m'imaginer pouvoir perpétuer un réseau qui mettrait les mouches à l'abri. Walter Binks vient de nous proposer de racheter l'affaire d'Ermir afin de rendre notre petit trafic légal. Ce dernier semble avoir déserté son exploitation. Mais vous imaginez, le miel des mouches, célèbre comme la cuvée d'Ermir, quel coup ce serait ! Je n'ai pas de nouvelles de Sol, sinon par l'intermédiaire de Nova, évidemment. Il paraît qu'il ne va pas très bien et ça m'inquiète. Je voudrais lui écrire, mais comme nous nous sommes quittés sur des mots, je n'ose pas. Ces histoires avec Astre ont l'air de lui peser énormément et ne semblent toujours pas réglées. Et puis, il y a une histoire de mariage de raison au pic de fer, si j'ai bien compris. Son père lui met la pression ou quelque chose comme ça. Je compatis, bien sûr, même si voyant Sol, le gnome, si assuré et si pédant parfois, si vieux aussi déjà, je me demande un peu à quoi ressemble son père. Je parie pour une de ces pommes toutes ridées que l'on met de côté avec Moyo afin de fabriquer des pendentifs de fausses têtes réduites aux petits. Keyal, enfin, m'a écrit une ou deux fois. Je savais qu'elle organisait des sortes de méditations pour les autres dans la grotte de la porte sous le cercle des héros, là où habite Moon. Je sais aussi qu'elle a poussé ses recherches de son côté sur les précédentes promotions. Mais je n'ai pu lui trouver aucune information inédite à la citadelle. Et voilà, finalement, cher journal, un résumé bien plus complet que ce que je comptais en écrire en commençant. Et ça, au moins, je saurais dire pourquoi. C'est l'excitation qui me pousse. Dans 48 heures se tient un grand conseil au cercle et j'y accompagne le baron. Salut les maîtres muets et le silence des salles d'études. Salut les cuvettes pleines et les tâches ingrates pour les pédants. Je ferai des chansons sur vos furoncles, je vous le promets. Je vais revoir mes amis, savoir enfin ce qu'ils sont vraiment devenus pendant ces 4 mois étranges où l'univers a basculé pendant que mon monde s'arrêtait.
Dans tout Sirius, il reste de nombreux anciens apprentis héros ayant échoué à l'épreuve des 365 lunes ou ayant vu leurs camarades périr face aux lourdes épreuves que réserve Sirius à tous les braves. Nous les appelons les sans-noms. 4 mois se sont écoulés depuis que nos héros sont rentrés de Roche-sous-Puits. Ils ont été ordonnés, en priorité, de réguler le mal de l'eau avant qu'il ne se répande sur tout le continent. Les sans-noms valides ont été rappelés au cercle pour prêter main forte aux nombreuses femmes et aux nombreux hommes de la garde de Verteville. Sous la supervision de la promotion actuelle du cercle, les apprentis héros et leur maître Minéas. La traque des égarés commença. Malheureusement, le mal d'Olo se répand comme une traînée de poudre. Les baronnies de Phalène et d'or pleine ferment leurs frontières. Phalène fit envoyer nombre de messages à l'intention du baron Faust pour qu'il autorise le déploiement de forces armées en Verteville. Le baron lutta quelques semaines, mais les pertes catastrophiques obligea l'homme à accepter que la force militaire d'Ombre Claire occupe sa chère baronnie. Un blocus fut mis en place et le foyer de l'infection fut bouclé. La traque des égarés fut un succès, au goût amer, qui coûta de nombreuses vies. Sol, il y a quelques mois, quand tu es rentré de Roche-sous-Puits,
Tu t'es donc affairé au conseil de guerre. Tu peux en expliquer plus sur ce que tu as fait, grosso modo, pendant ces 4 mois.
Très bien. Sol, depuis le retour de Roche-sous-Puits, il met vraiment toute son énergie dans organiser comment est-ce qu'on combat le mal d'Olo. Donc pour ça, il essaye de s'entretenir aussi régulièrement que possible avec Minéas, avec Valerfos, avec les gens qui décident. Il essaye de participer à ça du mieux qu'il peut. En parallèle de ça, quand bah, il peut rien faire de plus, il passe du temps avec Kayal et aussi Nova pour essayer d'apprendre à méditer et un petit peu à fermer son esprit pour essayer de faire en sorte que les intrusions d'astres soient moins violentes que ce qu'elles ont été. Et ça marche modérément. Et il est d'humeur plutôt maussade ces derniers temps. Et la seule chose qui lui permet un petit peu de retrouver de la joie de vivre en ce moment, bah, c'est en fait, il passe pas mal de temps avec Baptiste. Baptiste, qui travaille maintenant comme intendant du tout cercle. Et qui s'est malheureusement séparé de sa femme, mais qui a pu quand même s'occuper de ses deux enfants qui vivent toujours avec lui.
Tout à fait. Sa femme est partie vivre à Ombreclair et lui a laissé les deux enfants, fort de sa nouvelle situation au cercle.
Donc voilà, entre deux réunions stratégiques et missions du cercle, et bah, Sol essaye de passer du temps avec Baptiste à discuter. Et c'est un petit peu les seuls moments où c'est les seuls temps libres qu'il a en fait.
Et Baptiste, extrêmement reconnaissant de ce que tu as fait pour lui, t'a annoncé un jour particulier. Il t'a fait cette demande. Il t'a demandé si tu accepterais d'être le parrain de Hugo, son aîné. Chose à laquelle tu as répondu.
Eh bien oui, avec un grand plaisir. Sol accepte cet honneur. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est la seule chose positive qui se passe dans la vie de Sol à ce moment-là.
Et un jour, en une fin d'automne, par un après-midi avec un fond d'air frais qui annonce l'hiver qui arrivera prochainement, tu te baladais une fois encore dans cette forêt qui borde le cercle des héros, en guidant tes pas naturellement, presque inconsciemment, vers cet amoncellement de pierres, l'endroit où tu as vu Astre la première fois, et à tes côtés, Hugo, qui t'accompagne pour une balade, tout simplement. Et arrivé non loin de cette pierre, alors que vous étiez en train de parler, tu entends une musique. Que fais-tu ?
J'entends une musique. Est-ce que j'entends de la lyre ?
Tout à fait.
Très bien. Bah du coup... Hugo ?
Quoi ?
Hugo...
Ça va ?
J'aime pas trop cette partie-là de la forêt, tu sais...
Oh, mais t'avais dit qu'on allait à la pierre.
J'ai dit qu'on allait à la pierre.
Mais oui, à chaque fois je te demande d'aller à la pierre et tu dis pas aujourd'hui. Et aujourd'hui tu m'as promis d'aller à la pierre.
Ouais, bon. Bon, viens, on va faire le tour.
Ouais,
on va faire le tour. Bon, du coup j'essaye de mettre de côté cette espèce de truc négatif qui arrive dans ma tête. Et du coup, j'emmène Hugo à faire le tour à la pierre et tout. Mais bon... Et c'est dur de passer outre.
Et effectivement, c'est dur parce que des images te reviennent et un sentiment de froideur t'envahit. Le souffle du vent, soudain le silence dans les arbres, cette musique de plus en plus claire. Et le petit Hugo qui essaye de grimper. C'est peut-être la seule zone de lumière dans ce tableau sombre, qui essaye de grimper un peu malhabilement sur cet amoncellement de pierres.
Hé, regarde
Hugo, oui,
regarde.
Je vois.
Je suis sûr que je peux aller jusqu'en haut. Attends.
Non, Hugo.
Il continue
Hugo.
À grimper.
Bah, du coup, je me mets en bas, de manière à le rattraper si jamais il tombe.
Et tu entends dans ta
tête à ce moment-là.
Mais oui. S'il venait à lui arriver quelque chose, si, par malheur, il tombait et que le pauvre Baptiste voit sa progéniture mourir pendant qu'il est avec toi, ce serait tragique, Sol, tragique.
Et en levant les yeux, en essayant de repousser, comme te l'a nombreusement appris Kayal, en essayant de repousser cette vision qui s'installe, en levant les yeux vers Hugo, soudain le paysage s'assombrit et tu vois une créature cornue apparaître sur le sommet de cet amoncellement de pierres et qui tend une main aux ongles longs vers la gorge du petit Hugo.
Viens.
Ok.
Viens avec moi. Deviens mon jouet comme ton père.
Alors.
Et tout s'arrête. Aussi soudainement que c'est venu.
Ok. Bah, du coup, Sol, il s'assoit et il pleure.
Et le petit Hugo, en haut, rit aux éclats.
Oui, regarde, je suis en haut. Sol, Sol.
Pendant ce temps, Moyo, qui va qu'à ses occupations, qui prépare avec beaucoup de soin et impatiemment le retour de son ami dans quelques jours, et qui est absolument fasciné par l'idée de participer à un haut conseil de guerre avec de grands héros autour de la table, ressort d'un petit placard de sa chambre deux lettres. Et ainsi se remémore un souvenir d'il n'y a pas si longtemps, également à la fin de l'automne. Maître Minéas te fait demander dans la salle du conseil. Tu t'y présentes ?
Bien sûr.
Et tu arrives devant une porte fermée. Que fais-tu ?
Je toque à la porte car Minéas m'a demandé.
Entrez ! Entre ! Moyo.
Je rentre.
Tu rentres et tu vois Minéas assis autour de cette immense table de marbre ronde.
Ah, assis-toi, jeune Moyo Koyotsin.
Je prends la chaise qui est à côté de lui et du coup je m'assois attentif à ce qu'il veut me dire parce qu'il me convoque pas souvent, alors là je me dis que ça doit être important.
Comment te sens-tu, apprenti ?
Je suis fatigué de toutes ces rondes qu'on doit faire pour libérer les routes des égarés, organiser... faire de la stratégie, c'est pas mon truc, c'est les choses de Sol, il est très bon dans ça et moi je suis là en train de suivre comme je peux tout ça, ça me dépasse un peu, donc voilà, je suis dans cette ambiance.
Lio et Béline, les sans noms qui t'ont accompagné, m'ont dit grand bien de toi et de ton commandement. Il paraît que malgré les quelques pertes que vous avez vécues, tu t'es distingué lors d'un combat terrible vers les moulins de Roche-sous-Tourbe. Je tenais à t'en féliciter. Bien sûr, la mort des compagnons est quelque chose de douloureux. Mais pour combien de vies sauvées, Moyo ? Rappelle-toi de cela.
Une vie est une vie. On a fait des prélèvements au début, des prélèvements de sang pour savoir s'il y avait des choses avec notre sang azur, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des réponses des scientifiques et tout ça qui travaillent là-dessus, parce que me retrouver à prendre des vies comme ça, même s'il y en a des milliers, c'est...
Il hoche la tête, il te comprend parfaitement et te regarde droit dans les yeux.
Le temps de l'espoir est toujours, en cet instant, le temps le plus précieux. Attendons demain patiemment et n'oublions pas que derrière le nuage brille le soleil.
Après ces mots-là, je prends une grande inspiration et... Oui, vous avez raison, maître.
Je t'ai fait venir, toi tout particulièrement, car j'ai reçu une missive. Une missive qui est assez singulière, car c'est peut-être l'un des rares représentants de ton espèce à écrire une doléance, car ton peuple est bien plus habitué à l'oral qu'à l'écrit.
Oui, effectivement.
Eh bien, tu seras peut-être surpris d'apprendre que cette missive vient directement de l'oracle Theta Kokatsin.
Ok.
J'ai préféré t'attendre avant de l'ouvrir.
Ben, ouvrons-la. C'est tellement rare qu'est... Enfin, du coup, je dis ça de manière un peu... Ouais, c'est rare, mais en même temps, vu ce que ma sœur m'a dit sous le chêne, ben, c'est cohérent, en fait. Et du coup, ben, au moins, je suis un peu rassuré de savoir que l'oracle est vivante. Et ben, du coup, je demande à Minias, ben, ouvrons cette lettre-là, ouvrons cette missive-là, quoi.
Très bien. Il ouvre et il lit à voix haute. Et en effet, c'est une missive écrite de la main de l'oracle. Tu ne pensais même pas que l'oracle savait écrire. C'est un savoir interdit, ou une pratique interdite, ou presque. La seule personne ayant transcrit cette règle que tu connais, c'était ta sœur. Et dans cette missive, il était simplement écrit une demande faite au Cercle des Héros, un appel à l'aide, qui retrace un peu ce que t'avait expliqué ta sœur, quelques semaines, mois avant. L'oracle informe Minéas de l'avancée des humains dans les contrées sauvages et les jungles de racines. Elle leur explique les pillages, la destruction de la nature, le départ des esprits, et elle appelle à l'aide. Elle finit cette missive en appuyant sur quelques mots qui expliquent ceci. Si le cercle a toujours une raison d'être, nous prions pour que ce soit encore la survie du peuple de Sirius tout entière.
Je me lève de ma chaise et je suis... bouleversé par cette nouvelle-là qui, en fait, c'est... Je voulais pas y croire quand ma sœur m'en a parlé. En fait, il y avait, au fond de moi, je voulais pas forcément y croire. Je pensais qu'il y avait des choses qui étaient importantes, mais pas à ce point-là, pas au point où l'oracle écrit, en fait, au cercle, quoi. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et du coup, je... Ben, Minéas, il faut qu'on réagisse, là. On peut
et
pas laisser
lève
cette...
la main vers toi. Ne nous en partons pas encore. Il y a une deuxième lettre. Et si cette première est un nuage, nous pouvons toujours espérer que cette seconde soit le soleil. Et il te la tend avec un sourire.
Je la prends.
Et tu vois le nom de ta sœur sur cette lettre. Tu as bien sûr le choix de l'emporter ou de la lire devant moi. Tu es libre.
Non, je... Je regarde longtemps cette lettre-là et à un moment donné, je reprends la chaise de laquelle je me suis levé, je me rassois et j'ouvre cette lettre-là pour la lire.
Et dans
avec
cette
Minéas,
lettre,
du coup.
Très bien. Dans cette lettre, Okopotsin, ta sœur, te dit qu'elle va bien, qu'elle a regagné racine et qu'elle se cache dans les villages reculés pour protéger l'oracle. Elle te dit qu'elle organise la résistance, qu'elle ne laisse pas les humains faire ce qu'ils veulent dans votre pays natal, et qu'elle fait payer au centuple, à ses moins que rien, leur agression. Elle te dit que, après de nombreuses escarmouches, elle a finalement réussi à bloquer l'avancée des hommes de Gonzague grâce à un sabotage des ressources. Leur méconnaissance de la jungle est leur plus grosse faiblesse et
elle et un petit contingent de guerriers ont réussi à mener une guérilla qui a stoppé la progression des hommes de Gonzague. Et pour finir, elle te dit qu'une lueur d'espoir est apparue il y a quelques jours. Car un allié inespéré a fait son apparition. Et elle finit par une phrase un peu énigmatique. Il est dit que bientôt, le peuple de jungle sortira du bois pour se risquer dans de nouvelles contrées glaciaires où l'ami commun aidera à vaincre. Elle te dit, crois en moi, retrouve nos parents, frères et sœurs. Et tu constates que la date de cette lettre est légèrement plus récente que la date de la lettre de l'oracle.
Du coup, en lisant la lettre de ma sœur, j'ai un petit rictus en disant... Enfin, je me dis, c'est bien ma sœur. Et est-ce qu'il y a une adresse d'envoi sur la missive? Est-ce qu'il y a quelque chose pour que je puisse leur répondre?
Non, tu sens que c'est vraiment... La lettre est sale, le papier est de mauvaise qualité. Tu sens que c'est écrit au front et envoyé à la va-vite, au plus vite, dans un seul sens. C'est porter cette missive au cercle à l'intention de mon frère et sans retour. Tu sens que c'est vraiment juste pour t'informer.
D'accord.
Peut-être aussi parce qu'elle avait connaissance de la lettre de l'oracle. Peut-être est-ce un hasard. Tu ne sais pas.
Ok.
Minéas relève les yeux et te regarde attentivement, toujours un sourire. Tu lui as lu à voix haute?
Ouais, enfin, je l'ai lu une première fois à voix basse et là, je lui ai fait un bref résumé. Du coup,
et il se met à rire.
Vous voyez, jeune Moyo.
Le rayon de soleil.
Le soleil.
Du coup, je suis plutôt rassuré, ouais, en apprenant ça. Et mais il manque encore des questions. Maître Minéas.
Oui.
Est-ce que vous connaissez un certain... J'ai besoin de réponse, en fait. Est-ce que vous connaissez un certain Ernest Gonzague Courtegrève?
Oui.
Vous pouvez m'en dire plus?
Gonzague Courtegrève est un notable d'ombre claire. Ce fut un soulagement pour ombre claire quand cet individu fut interdit de séjour dans sa capitale. C'est un, comment pourrait-on dire, un magistrat véreux. Il a pratiqué de fausses ordonnances de médecine, il a pratiqué des détournements de fonds et autres stratagèmes perfides. Il fut interdit de séjour, et si je ne me souviens bien, il fut recueilli à Orplaine, près d'Henri Sourdesgourde, à Courchâteau. Depuis, il ne semble pas avoir fait de vagues, mais cette nouvelle est troublante, car apparemment, Gonzague s'est réveillé et il porte ses vues sur ta baronnie.
Exactement.
Et il serait d'autant plus troublant que Henri Sourdesgourde soit au courant. Prions pour que Orplaine n'ait rien à voir et que Gonzague soit seul, mais en ces temps de trouble, je ne peux rien affirmer ni infirmer.
Déjà, ça me permet de savoir qui c'est ce fameux Ernest Gonzague.
Ce que tu sais aussi, c'est que... fais-moi un petit jet de connaissances, tiens. S'il te plaît.
Oh, bah d'accord. 5.
5. Alors, 5, eh ben, Sourdesgourde, t'as vraiment dû entendre ça dans les cours de pot à miel, mais tu devais en avoir rien à péter, probablement. Mais tu peux t'écrire ce nom dans un coin de la tête et sûrement que Nova en saura plus.
Ok.
Y a-t-il autre chose?
Oui, il y a autre chose, Maître Minéas. J'aurais aimé savoir aussi, parce que bah, vous voyez comment c'est critique à Racine, et du coup, quand j'ai croisé ma sœur à, en gros, en fait, je réexplique à, un peu à Minéas ce qui s'est passé avec ma sœur que j'ai croisée à, à Roche-au-Puy. Et du coup, est-ce que la guilde des braconniers de la Flèche, vous en avez déjà entendu parler?
Oui, je connais la Flèche.
Vous pouvez également m'en dire plus?
Eh bien, la Flèche, comme tu l'as dit, est un ordre de braconnage. Et il me semble qu'ils sont, ces derniers temps, en affaire avec l'araignée de sang. Connais-tu cette guilde?
Non.
Eh bien, l'araignée de sang est en quelque sorte dans le braconnage humain.
Ah, c'est des esclavagistes, quoi.
Oui. Leur récente association est très préoccupante. Et Tosca a une période enquêté sur cette guilde, mais ils sont difficiles à trouver. Nous avons donc missionné un autre héros pour cela.
Et c'était qui ?
C'était l'ami de Tosca, membre de sa promotion, Cid Ulero. Il a essayé d'infiltrer l'araignée de sang, mais nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Je crois que Cid s'est un peu peut-être égaré en chemin, bien que le calembour aujourd'hui ne soit pas des plus appropriés. Disons perdu en chemin. Autre chose ?
Cid Ulero a été envoyé par le cercle des héros, en gros, où c'était dans une de ses missions, d'aller justement avoir des informations auprès de l'araignée de sang, à ce moment-là, en fait.
Cid a toujours eu des accointances avec toutes les guildes de malandrins de Sirius. Et il était donc tout indiqué, selon une stratégie menée par moi-même et Tosca, de l'envoyer dans ces guildes pour que nous ayons des informations. Tantôt la croix, tantôt l'araignée de sang, tantôt la rose.
D'accord. D'accord.
C'est en somme un peu un agent double. Mais un agent double laissé en liberté et qui ne donne pas de nouvelles peut toujours présager quelque chose
de bien pire.
De bien pire. Mais je fais confiance à cet homme. Je pense.
Je vous crois, maître. Eh ben, écoutez, c'est tout.
Et du coup, en fermant les yeux que ce souvenir s'arrête. Et tu regardes cette lettre en pensant à ce Cid Ulero. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres, plus profondément enfouis dans le sol, se trouve, non pas seul, se trouve la grotte de la porte démoniaque. Et dans cette grotte se trouve la porte démoniaque sur son îlot, autour bordé de ce lac étincelant. Et à cet endroit se trouve Kayal, qui a le regard posé sur une fresque. Tout autour de cette grotte se trouve un mur maçonné circulaire sur lequel on aperçoit plusieurs fresques qui représentent les temps glorieux du cercle. Quelques fresques représentant telle ou telle promotion et quelques espaces vides pour l'histoire à écrire dans le futur. Et Kayal, tu es devant la même fresque que d'habitude depuis de nombreux mois, pendant que les autres attendent dans leurs appartements la convocation pour la réunion de tous les héros. Toi, tu passes encore de nombreuses et nombreuses et nombreuses heures dans cet endroit sombre à regarder une fresque toute particulière qui représente la promotion des 100 visages. On voit 7 héros, tous masqués. 6 héros en réalité, sont un peu derrière un septième qui brandit la couronne du roi orc de jadis. Et tu te rappelles l'enseignement de Minéas et du professeur Potamiel qui t'expliquait que le haut fait d'armes de la promotion des Cent Visages était d'avoir vaincu le roi orc à Braise et ainsi à avoir gagné leur nom. Car Maska, un des membres de cette promotion, fut défiguré lors du combat et en signe de soutien, tous et toutes eurent décidé de porter un masque. Et tu regardes très particulièrement et très attentivement une femme, un personnage du second plan. Et alors que tu es perdu dans tes pensées, tu sens une main froide et encore dégoulinante d'eau se poser sur son épaule. Vous êtes encore là, jeune Kayal ?
Oui, toujours.
Je ne voulais pas vous déranger.
Oh non, Moon, vous ne me dérangez pas.
Je voulais vous demander si vous auriez quelques instants de votre temps à consacrer à Imus. Il m'a dit vouloir vous parler.
Oui, avec plaisir. J'ai moi-même quelques questions.
Et tu vois qu'elle sourit et elle présente sa main devant toi. Et ses deux mains sont jointes et elle les ouvre. Et comme il y a plusieurs mois maintenant, tu découvres Imus. Un petit être follet, un esprit follet, avec sa grande barbe, assis sur une petite écorce au creux de la main de Moon.
Ah, jeune Kayal, bonsoir.
Bonsoir, Imus.
Loin de moi l'envie de vous sortir de vos pensées, mais je me demandais pourquoi venez-vous si régulièrement ici contempler cette fresque?
Parce que c'est l'endroit où je peux enfin retrouver ma mère.
Ah, c'est bien ce que j'avais pressenti. Vous êtes la fille d'Iraltré?
Oui.
Saviez-vous qu'en son temps, votre mère, avant la naissance de cette fresque, venait souvent ici converser avec moi?
Maître Minéas me l'avait dit, oui.
Et savez-vous qu'après la création de cette fresque, elle continuait toujours de venir me voir? Bien loin l'envie de s'enorgueillir de son propre portrait et de ses moments de gloire, mais elle avait quelque chose, une recherche, une obsession pour cette fresque que vous-même vous contemplez aujourd'hui.
Et elle s'arrêtait sur un fait d'armes en particulier?
Je ne sais pas. Elle était toujours accompagnée de son ami étrange. Et ils passaient des nuits entières à parler, à écrire et à lire à la lumière des champignons phosphorescents. Mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ce qu'il cherchait. Mais c'est quand même curieux de voir vous, ici. Vous lui ressemblez tellement.
Mmh. En même temps, il y a petit flin dans le coin. On se ressemble tous, finalement.
Certes.
Et vous pouvez me dire un peu de quoi vous parliez quand elle venait vous voir ici?
Votre mère était une grande, grande curieuse. Elle aimait simplement le savoir pour ce qu'il avait de plus beau. Comment fonctionnait telle ou telle chose? Et elle avait une admiration particulière pour ce lieu parce que je crois qu'elle ne supportait pas l'idée qu'elle n'était pas capable de voir ce que moi-même je pouvais voir. Elle était fascinée par ce que nous appelons les esprits.
D'accord.
Je crois que votre mère était en quête d'un dieu.
Elle se posait mille et une questions et ne cessait de me demander qui étaient les esprits, qui étaient les totems. Et je lui contais de nombreuses histoires sur ce que nous, peuple sylvain, nous pouvions percevoir. Je lui parlais de mes rêves dans lesquels je me voyais parler aux initiaux et de mes cauchemars dans lesquels apparaissaient les écorchés. Elle était fascinée par cela.
Oh, je l'ignorais complètement. Et moi, ce qu'elle m'a légué, c'est pas du tout cette religion-là. Donc ça me perturbe d'autant plus.
Que vous a-t-elle légué ?
Elle m'a laissée dans un monastère qui avait une adoration pour le dieu de la vérité. On est loin des esprits totémiques.
Je ne connais pas bien vos dieux. Le dieu de la vérité est un dieu du panthéon de songe ? Dans le monde éthéré ou est-ce une divinité
humaine ? Non, c'est une divinité humaine.
Alors je ne connais pas cette divinité. Mais la quête de vérité, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un vient vous voir.
Et à ce moment-là, tu entends des pas, des bruits de pas. Et ce sont les pas de Nova, Moyo et Sol qui viennent te retrouver comme à leur habitude. Cela fait plusieurs semaines maintenant que vous prenez l'habitude de venir vous réunir ici afin de discuter de vos missions, de prendre un petit temps reculé du monde, un temps où toi, Keyal, tu leur permets de se recentrer. Et vous prenez souvent un temps pour méditer, essayer de leur apprendre, tu leur apprends à verrouiller leur esprit, pendant que Moyo, lui, vient toujours manger une petite collation qu'il s'est préparée à l'écart sur une pierre, la tête haute, à regarder dans le vide. Et vous arrivez. Et vous voyez Keyal à côté de Moon. Que faites-vous ?
Moi, je salue Moon. Du coup, de manière, distinguée.
Et puis, quand tu la salues, tu vois que Moon te regarde et si tant est qu'elle en est capable, tu serais persuadé de la voir rougir. Ceux qui le souhaitent peuvent lancer un dé de perception.
C'est la première fois qu'elle fait ça ? Ou c'est la première fois que je
c'est
le vois ?
C'est la première fois que tu le vois.
Ok, c'est la première fois que je le remarque.
Est-ce qu'il y en a qui vont voir plus loin que ça ?
Je regarde juste, 20. Mais 18 plus 2.
Bah moi je suis dans mon truc en fait, c'est que je la salue et en fait je vais pour m'asseoir sur mon petit caillou pour
Et tu vas t'asseoir sur ton petit caillou et Nova fait vraiment un double face sur Moon Moyo Moon Moyo. Et tu vois clairement que
ça crush mon gars.
Tu vois vraiment que Moon elle frissonne légèrement et elle fait un espèce de petit tu vois, elle se détourne comme ça avec une espèce de rougeur qui lui monte comme ça en dessous des yeux. Voilà, ça t'amuse beaucoup.
Je m'approche de Moyok et je lui fais t'as une touche.
hyper discrètement.
Bah, du coup, je te regarde et bah, tu dis quoi là enfin...
Bon, laisse tomber. je dis bonjour à Moon et à Keyal. Et je m'installe pour la médite.
Bah moi j'arrive, petit salut rapide à tout le monde et puis je vais me mettre au bord du lac, au lac au centre de la grotte et puis je regarde l'endroit où je me rappelle dans mes souvenirs où était le sphinx qu'on avait rencontré il y a maintenant plusieurs semaines. Et je reste là, presque 4 mois, ouais. Bah, je reste là tranquillement.
Oui, tu regardes en direction de la porte.
Voilà.
De la porte démoniaque. Eh bien, elle est toujours là, mais elle ne laisse pas apparaître le visage d'Orion et le pont qui emmène de la berge jusqu'à l'île a disparu.
Ok, je fais des ricochets.
Très bien. Et tu entends l'écho dans toute la galerie.
Moi, je sors du coup mon petit frichti. Et forcément, je suis ici dans cette grotte-là, en fait, parce que c'est la première fois que je vois autant d'esprits totémiques, des petits totems qui sont dans ce lieu qui est bourré de magie. Et du coup, je viens principalement pour ça. Je viens aussi pour échanger avec mes camarades de la journée qu'on vient d'avoir, ou les deux ou trois jours, les missions qu'on vient d'avoir. Mais je viens aussi pour ça. Et ce que je remarque, c'est que les petits esprits totémiques, en fait, ils brillent en pulsation avec les ricochets de sol sur l'eau, quoi. Qui fait que, et du coup, je suis amusé de cette situation, un peu de délicatesse et de légèreté après ces jours-là, quoi.
C'est quoi cette belle image vient de me résonner dans ma petite tête de MJ, et tu vas te prendre un petit point d'inspiration pour cette jolie idée poétique.
Merci.
Moi, je m'approche de Saul parce que pendant ces 4 mois, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et moi, qui avais un peu du mal avec lui parce qu'il mentait tout le temps, etc., j'ai appris à mieux le connaître, à mieux cerner pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Je sens qu'il y a un secret, mais il ne peut pas m'en dire plus pour l'instant. Mais en fait, il me touche. Et je sens encore là, sa détresse une nouvelle fois. Donc je m'approche de lui. Et je lui, en mettant la main sur l'épaule, voilà, je m'accroupis, etc. Puis je lui demande comment il va.
Oh, bah tu sais, tu penses que tu vas être un héros, tu étudies pendant 10 ans, tu lis des amitiés avec les gens, et puis le jour où tout ça semble prendre fin, rien se passe comme prévu. Voilà.
Donc c'est pas la forme, quoi.
J'essaye de faire, hein, comme tu m'as dit, de fermer mon esprit et tout.
T'as eu des nouvelles visions, des nouveaux moments de... Tu sentais ton esprit partir, ou ça s'arrange un peu?
C'est dur, c'est très dur. Des fois, j'ai l'impression que ça marche, et puis le lendemain, ça fait plus rien.
Et est-ce que tu crois pas qu'on pourrait peut-être en parler avec Moon, elle qui a l'air un petit peu de connaître Astre, pour lui demander s'il y a un moyen de lever cette malédiction?
On peut, mais je pense que j'avais déjà essayé de lui en parler, mais on peut recommencer. Peut-être qu'elle sait.
Oui.
Elle est donc présente.
Bonjour, ouais. Moon.
Bonjour.
Ça va, vous?
Un peu masculin.
Il y a Imus comme ça qui a éternué, qui a un peu de mort.
Oh, pardon. Je ne voulais pas vous déranger.
Il renifle.
Ça va, alors je vous demande si tout va bien.
Oui.
Ça va?
Tout va bien.
Très bien.
Et tu vois qu'elle... Elle regarde pas dans ta direction.
Je vois bien.
La direction de Moyo.
Que puis-je faire pour vous?
Ça me gêne de vous parler de ça. En fait, vous voyez le astre là. Bon, je sais, il vous embête. Hein,
elle a la mine pénible. Qui s'assombrit légèrement.
Ouais, je sais. Je pense, j'ai peur d'être sous son emprise.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ça fait plusieurs fois maintenant que je le vois, que je l'entends, que j'entends de la musique à des moments où personne d'autre n'entend ça. Et c'est en train de. Je me demande si ça commence pas à jouer sur mes pouvoirs de paladin qui ont l'air de moins bien marcher. Enfin voilà.
Et au moment où tu parles, elle s'agenouille comme elle l'avait fait il y a longtemps. Et elle met ses mains. De part et d'autre de ton visage, elle s'approche de toi et elle colle son front au tien et elle te chuchote à l'oreille « Fermez les yeux. » Et ça dure un certain temps, comme ça, dans le silence. Et quand elle rouvre les yeux, elle s'écarte de toi et elle vient descendre ses mains le long de tes bras pour attraper les tiennes, elle les serre. Et elle te regarde droit dans les yeux. Un regard difficile à soutenir parce que Moon n'a pas réellement de pupille. Ses yeux sont unis comme un bleu, un espèce de ciel qui rejoindrait la mer. C'est assez particulier, on dirait une mer d'étoiles. Et elle te regarde et sans parler,
tu entends dans ta tête, ce n'est pas l'emprise de la créature qui vous persécute. Vous êtes sous l'emprise d'une arme terrifiante, la lyre de la reine pâle, a corrompu nombreux cœurs, Sol Coriolis. Et elle te lâche.
Ok. Bon bah Sol, il retourne s'asseoir près du lac. Il s'assoit par terre et voilà.
Très bien.
Elle t'a aidé un peu.
Bah elle m'a dit ce que je redoutais. C'est-à-dire que tu sais, tu te rappelles à la bibliothèque et tout, on avait entendu parler des armes.
De la lyre.
Ouais, voilà. Bah, c'est vraiment cette lyre là du coup.
Est-ce que Nova, tu entends cette conversation?
Bah moi je fais pas d'effort pour essayer que ça reste en
moi. Je sais pas où tu es. Est-ce que Nova, tu entends cette conversation?
Je suis vraiment pas loin.
Pardon. Je suis pas loin. Je me suis assise au bord du petit lac là qui donne vers la porte. Et en vrai, moi je me suis déjà mis dans un état méditatif, mais du coup j'entends tout.
Eh bien, tu vas me jeter un dé de connaissance, s'il te plaît.
Connaissance.
Donc intelligence pure. Ok.
5 plus 2.
Ça médite fort.
5 plus 2, effectivement. T'es sur ton truc. Très bien. Pardonne-moi, Sol, tu peux continuer.
Ah bah, c'est cette lyre-là, du coup. Donc, je suis juste ensorcelé par un des trucs les plus puissants du monde. Bon, bah. Super.
Donc, faut qu'on arrive à la détruire ou la récupérer. Ou... Au moins, on sait ce qui est.
Oui,
on sait
oui.
Ce qui te rend comme ça.
C'est vrai, mais bon.
Précisément.
C'est pas. J'aurais préféré que ce soit juste un faune maléfique, quoi. Mais ouais. Bon, un faune maléfique avec l'un des objets... Un satyre, exactement. Un satyre maléfique avec l'un des objets les plus puissants qu'on connaisse, ça remonte pas mon... Ça remonte pas mon moral.
Non, je comprends ta détresse. Écoute, je te propose qu'on se remette à la méditation pour que tu arrives
Avant, j'ai besoin de me mettre en condition. Et du coup, Sol, il sort un petit papier de sa poche et c'est un petit dessin d'enfant, visiblement. C'est un petit dessin d'enfant, visiblement. Vous n'arrivez pas trop à voir ce que c'est, mais il le regarde comme ça pendant peut-être une dizaine de secondes et puis ensuite il vient rejoindre les autres pour commencer la méditation.
Et alors que vous êtes en cercle et que vous commencez la méditation, tous les trois, Nova et aussi Keyal et Sol, alors que Moyo est un peu plus loin à regarder autour de lui, vous entendez le bruit de ricochet de Sol de tout à l'heure revenir vers vous.
Je tourne la tête.
Sol, c'est toi qui as lancé le...
J'allais te dire, c'est toi qui as acheté le caillou.
Et une seconde fois...
Est-ce
vous.
Qu'on voit un caillou ou c'est juste le son?
Vous voyez le caillou?
Oh non, je suis encore en train d'entendre des trucs là.
Non.
Vous voyez le caillou?
On le voit aussi ça.
Ah.
Et...
Je te fais une petite tape dans le dos.
Oh, j'ai eu peur.
Je descends de mon caillou et puis je rejoins mes camarades.
Et dans la direction du caillou, le caillou vient de l'entrée secrète que vous avez fini par trouver dans ces quelques mois, l'entrée secrète qui mène à l'extérieur, parce que la première fois vous étiez venu par un portail magique utilisé par Minéas, mais il existe une entrée qui donne dans la forêt. Ce caillou vient de cette direction.
Il y a quelqu'un?
Vous y regardez plus attentivement.
Ouais.
Et tu dis, il y a quelqu'un?
Ouais.
Et tu entends.
Je suis sur regarde.
Nova? Je me lève et je sprint.
Oh Andy!
Et je sprint vers la sortie.
Andy!
Et tu fais le tour du lac pour rejoindre Andy.
Je te saute dans les bras. Et je saute tellement fort qu'on se casse la gueule.
Moi j'arrive...
On arrive en courant.
Quasiment en courant. Et tout ça.
Vous voyez sûrement directement venir ici parce qu'il a dû arriver au cercle en courant et demander où vous étiez et personne ne devait savoir et peut-être que Minéas l'a trouvé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est complètement harnaché de son énorme sac de voyage, etc. Il a une petite mine de quelqu'un qui a sûrement marché à un pas soutenu toute la journée et qui n'a pas pris le temps de se poser, de se débarrasser de ses affaires. Il arrive tout juste, probablement.
C'est pour ça qu'on s'est cassé la gueule. Il avait un gros sac. Et du coup,
j'arrive à la suite. Je vous prends tous les deux d'une chaque main et puis je vous remets sur pied. Ouais.
Mais ça fait. On t'a pas vu depuis. Je sais pas.
4 mois.
Une saison au moins. Oh là là. T'as grandi.
Je suis extrêmement heureux de les revoir tous, évidemment. Je rigole, je sais pas pourquoi, je suis en train de serrer les uns les autres dans les bras, tout ce que je peux.
Alors la citadelle, ça ressemble à quoi les vieux croutons?
T'es pas tombé malade?
Oh, c'est nul la citadelle, mais alors qu'est-ce que c'est nul? J'ai étudié de toutes mes forces en me disant que j'arriverais à trouver quelque chose, je vous jure. Je sais pas si ça a servi à quelque chose, et vous alors, vous êtes des grands héros?
Bon, tu sais, c'est pas Jojo, hein.
C'est pas Jojo.
Ouais.
Si, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Dimitri et Dominique qui nous ont fait un petit cidre là, plutôt bien. Il faudrait que tu goûtes ça parce qu'ils ont essayé un truc et ça marche plutôt bien. Donc,
je suis trop pressé.
Les autres, ils sont au courant pour notre histoire de cidre.
Bah, un petit peu, ouais, genre.
T'as dit
un peu,
ouais. Vous avez goûté non, alors non, c'est bon ça.
Ah non, moi j'ai pas goûté aussi. Non. Je sais pas qui c'est Dimitri et Dominique, ouais. Mais
je prends un petit peu à part. Tout le monde entend, mais je prends un petit peu à part Andy en disant tu sais, notre entreprise de confection de cidre, déjà Sol est pas très pour parce que c'est un peu illégal. Alors du coup, il aime pas trop ça. Voilà,
c'est
exactement.
Pas, c'est pas ultra héroïque.
C'est pas très héroïque et tout ça. Et du coup, voilà, on c'est un petit sujet tabou. Et du coup, je te le place comme ça, histoire que tu t'y ailles avec des œufs, enfin que tu marches sur des œufs.
Parce qu'avec les œufs, c'est un peu bizarre.
Avec ton panier
d'œufs. Pourquoi tu reviens avec des œufs? Ça n'a aucun sens. Hein.
Je sais pas, c'est Moya qui
bon, alors demandé. C'est bien beau les histoires de Sid, mais Andy, c'est la guerre. Hein. C'est pas rigolo. On est obligé d'aller faire des missions là.
Quand il dit ça, tu retrouves un sol. Le sourire que tu avais à la seconde en écoutant ces histoires de cidre disparaît de ton visage quand tu croises le regard de Sol, que tu vois vraiment très amaigri. Un regard moins espiègle. Tu peux te décrire, mais en 4 mois, il a vraiment changé.
Ouais, déjà physiquement, tu vois, c'est les cernes sous les yeux, les traits marqués. Ouais, tu peux voir que c'est pas le Sol des grands jours. Ouais, déjà, il porte même plus sa super belle armure.
Quoi ?
À la place, il a une espèce de cotte de maille. Et en plus, elle est toute tachée, tout de sang et tout. Et il est même négligé. Sa cape est un peu sale et tout. Et vraiment, c'est comme si il lui était arrivé quelque chose, quoi.
Ça m'arrête même complètement. J'ai non seulement le sourire qui se fige et qui s'éteint, mais en plus, je tente de cacher ma réaction trop tard, ce qui fait qu'elle se voit encore plus. Et je pense que n'importe qui me regarde à ce moment-là, et Sol particulièrement, peut lire sur mon visage à quel point Sol a changé en 4 mois et à quel point ceux qui l'ont fréquenté quotidiennement n'ont peut-être pas vu sa déchéance, j'allais dire, ou se sont habitués aux étapes. Mais à quel point cette déchéance est marquée ou violente pour quelqu'un qui le retrouve.
Ben oui, je sais, Andy, c'est la guerre, hein, c'est pas facile. Hein. On a tous tué des gens qui étaient malades, peut-être, qui étaient finalement innocents. On les a tués parce qu'on savait pas comment faire d'autre. Puis on commande des gens qui sont à nos ordres, alors que finalement, peut-être qu'on n'est pas les mieux placés pour faire ça. Puis ils meurent, et puis voilà, et puis on peut rien faire.
Ça va aller,
c'est bien que tu sois là. Moi, j'avais bien envie une petite chanson là pour voilà, parce que c'est pas facile.
Ouais, pardon, je vous interromps, mais les nouveaux micros sont super sensibles, et ça.
On entend.
On s'entend à mort. Je sais que ça donne envie. Hein.
Les chansons, c'est bien, on dit. Donc voilà, moi. Je suis parrain sinon.
Oh.
Si, je suis parrain de Hugo, le fils de Baptiste.
Mais c'est une super nouvelle, ça.
Ouais, je suis content, c'est bien.
Petite lueur d'espoir, enfin de bonheur.
Ouais, ouais, c'est bien. Mais j'ai peur qu'il arrive des choses. Mais ouais, c'est bien. Ça va, Andy ?
Ça va, ça va très bien.
Andy, est-ce que tu as appris des choses sur le Maldolo et des choses à la citadelle qui nous permettraient de pouvoir un peu...
On avait entendu parler d'une sève qui aurait été sans doute à l'origine de... du remède.
Alors, Andy vous explique...
C'est dans mes notes.
Tout à fait. Andy vous explique...
Secret du remède dans une sève.
Que... entre quelques dizaines de vidages
de peau de chambre.
De peau de chambre par jour et la coupure des ongles, etc., il a quand même assisté le baron de la citadelle, un homme étrange, extrêmement âgé, avec un savoir immense. Il l'a assisté dans de nombreuses expériences, c'est-à-dire que certains égarés ont été emmenés à la citadelle. On les nettoyait, on les entravait, on les préparait, on les disséquait. Des études ont été faites sur la coupelle, car Andy l'avait conservée, me semble-t-il.
Ouais.
Et les nouvelles sont mauvaises, mais il vous dit, je vais le dire pour lui, pardon. Il vous dit qu'il vous en parlera plus tard, car le baron... Alors, je vais retrouver son nom, pardon. Il vous explique que le baron Pregus Niftelin a ordonné à Andy de ne point trop en dire, car dans quelques jours se tiendra ce conseil des héros, et il voudrait lui-même restituer le fruit de leurs recherches. Mais vous voyez dans son regard qu'il a fait de sombres découvertes.
Pregus Niftelin,
encore des bonnes nouvelles.
Pregus Niftelin, c'est le baron de...
De la citadelle. Pour ceux qui ne savent pas, la citadelle, c'est une baronnie assez particulière, car toutes les baronnies sont liées à des territoires, notamment des territoires dans lesquels se trouvent les portes démoniaques, les 9 portes démoniaques. Et il existe une porte démoniaque au milieu de... en plein sous l'eau, dans la mer. Et par-dessus... cette porte a été édifiée une citadelle, une tour artificielle qui regroupe les plus illustres savoirs de Sirius. Tout y est consigné, une sorte de bibliothèque immense dans laquelle siège seul, Andy peut en témoigner, le baron et ses multiples maîtres muets. Et leur mission, est, en plus de garder la porte, est de réunir tout le savoir de Sirius. C'était donc l'endroit idéal pour mener les recherches. Et ce que Andy peut vous apprendre, mais vous le saviez, c'est que Pregus Niftelin est un héros. Un héros de la promotion des chevaucheurs de rêve. Soit la promotion qui a précédé celle de Minéas. C'est donc un homme... arborant les 600 années ou plus, ce qui est impossible. Vous ne connaissez pas d'homme de cette longévité-là. En tout cas, il a vraiment cette apparence humaine, oui.
D'accord.
C'est un homme constamment encapuchonné dans une grande toile de jute, là, ce genre de grande cape. Donc on ne discerne pas, est-ce qu'il a les oreilles pointues, est-ce qu'il a ceci ou cela, est-ce que c'est un droïde.
Et dis-moi, Andy, t'as dû en étudier des choses là-bas, là, dans la citadelle.
Oh oui, ça.
Est-ce que par hasard, tu aurais entendu parler de la lyre de la Reine Blanche ?
Tu peux me faire un jet d'intelligence avec avantage.
Alors, c'est un jet d'intelligence pure.
Tu peux me faire histoire ouais. Ou arcane. Suivant ce que tu cherches. Arcane sur sa possibilité magique et histoire sur tout ce qu'on sait de son existence.
Ok, ça marche avec avantage ouais. Du coup, donc j'ai un bonus de 0 tant dans arcane que dans histoire. Malheureusement, le premier jet c'est 5 et le deuxième c'est 2.
Malheureusement,
t'as, ah oui, je vois que t'as bien écouté, Andy.
Mais non, mais juste, t'as accumulé un savoir vraiment impressionnant mais pas sur ce sujet-là. Hors jeu, il faut le dire maintenant, profitons-en, que Andy a accumulé un savoir assez particulier, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous donner, avec une nouvelle compétence qui s'appelle
connaissance insolite,
il va pouvoir vous donner tout un tas de renseignements sur des choses qui probablement ne vous serviront jamais.
D'ailleurs, vous savez qu'il y a 67 façons de plier des chaussettes dans une valise.
Exactement, mais par contre, la lire, non. Okay. Désolé.
Ah, c'est comme ça que tu as appris à faire des ricochets.
Ouais. Toutes et tous, vous pouvez me faire maintenant ce jet d'arcane ou d'histoire sans avantage.
Sans avantage. Ah bah oui.
Dites-moi les scores.
J'ai 9.
C'est non.
9 aussi.
Plus 4, 20.
10, 16.
Ok, donc Nova. Nova en histoire ou en arcane?
Ah oui, parce que les deux, j'ai 20. Alors attends. T'as dit quoi?
Histoire ou arcane? T'as fait quel jet?
Arcane.
Arcane pour ses composés magiques et histoire pour ses composés historiques.
Arcane.
Nova, toi, ce que tu sais sur cette lyre, c'est que elle était l'outil de manipulation de la Reine Blanche, membre de la Triade, et qu'elle pouvait imposer sa volonté au travers de cette lyre à n'importe quel être vivant, et que elle a pu dresser des armées, elle a pu faire détruire des hommes, elle a pu faire tout un tas de prodiges à la seule puissance de cette lyre, et ce que tu sais, c'est que tu as fait combien? 20.
16 plus 4.
Ouais, 16 plus 4. Oui, tu sais quand même que sa puissance magique le répertorie dans l'un des trois artefacts magiques les plus puissants de tout Sirius à travers toutes les époques.
Ouais, c'est Astre qui se retrouve avec ça.
On en a d'autres des bonnes nouvelles comme ça, Nova, parce que voilà.
C'est vraiment un outil extrêmement puissant.
Et Nova, tu sais pas comment on arrête l'enchantement ou comment on détruit?
Je fouille dans ma mémoire.
Malheureusement, non, tu ne sais pas.
Malheureusement.
Peut-être un jour, mais là, non.
Je trouve pas, là, comme ça. Faudrait que je réfléchisse un petit peu.
je suis extrêmement intéressé par l'objet. En tant que musicien, j'ai très envie de mettre les mains sur l'instrument, évidemment.
Oui, je vois ton petit air, Andy, mais cet objet, c'est pas terrible. Hein.
C'est démoniaque.
Voilà.
Il me semble qu'on était allé à la bibliothèque, on avait vu un livre qui parlait des trois objets comme ça qui avaient disparu et qui étaient hyper puissants.
Un livre entre les mains de José.
Oui, c'est ça.
Parlait de la triade et des objets magiques.
Et le petit José, après, il avait voulu se peindre le sang bleu.
Ouais, c'est vrai.
Ça remonte, cette histoire.
Ouais, ça remonte. Ouais, c'était avant tout ce bordel.
Il y a peut-être d'autres renseignements dans la bibliothèque.
Et au moment où tu dis ça...
Je vous rappelle que c'est la guerre et qu'on n'a peut-être pas le temps d'aller à la bibliothèque pour regarder des vieux bouquins. Désolé, c'est vrai.
Et je sais, mais bon. Sur fond de mots de sol, vous entendez les cloches qui sonnent l'heure du soir et l'heure du souper, et la faim se fait sentir. Peut-être est-il le temps de rentrer.
Moi, tu dois être affamé, Andy, après ce voyage, en
exténué
plus.
Exténué et affamé. T'as peut-être envie de voir tes mouches aussi. Voir.
Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une tarte aux pommes?
Petit souvenir du bon temps.
Super idée.
Allez.
Wow.
Peut-être qu'on se fasse servir plutôt.
Ah, comme vous voulez.
Ah, parce qu'elle était pas très bonne, la tarte. Je sais pas, moi je l'ai pas mangée, c'est Baptiste qui l'a mangée.
Moi je suis chaud pour cuisiner, c'est une activité méditative.
Oui, voilà, c'est pour ça, moi j'ai besoin de faire des choses. Donc moi je vais faire la tarte avec toi.
Je vous suis. Formidable.
Nous accélérons un peu le temps, vous remontez, vous bien sûr parlez des multiples aventures que vous avez vécues, tristes et heureuses. Vous écoutez les récits fabuleux d'Andy à la citadelle. Un long temps se passe, vous vous retrouvez dans cette cuisine. Ça fait un moment que vous n'avez pas été tous ensemble et l'humeur est quand même au beau fixe. Et vous faites cette super tarte aux pommes. Vous voyez passer ici et là le maître de cuisine. Fait, c'est pas vrai qu'il retente l'expérience. Ça ne l'a pas suffi la première fois. Je ne vais même pas y participer. Je m'en vais. Et vous allez me jeter un dessin, s'il vous plaît.
Ouais, la tarte.
Un dessin. Alors attends.
Une personne jette un dessin. Une seule. Ouais. Eh bah, tiens, vas-y, Kayal, c'est ton idée.
Donc 80.
80. Et le une fois cuite, et vous parlez, vous êtes même assis autour de la table de la cuisine. Vous mangez en cuisine, vous parlez, vous buvez le cidre, etc. Et puis le maître de cuisine, nain, arrive.
Et alors, vous comptez la faire cuire toute la soirée? Il faut l'arrêter un moment.
Oh,
et il ouvre comme ça et il la sort.
Non, 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 elle est bien.
Et il la pose comme ça et il s'arrête une seconde dessus.
J'ai l'impression que les petits apprentis ont fait des progrès.
Ah, merci, ça fait plaisir.
Et il coupe une part comme ça. Il la mange, vous voyez toutes les miettes tomber dans sa grande barbe.
Grand progrès. Intéressant.
Et la suite au prochain épisode.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir sur le Ko-fi, lien en description, et à partager en masse nos épisodes et à mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément et ça nous permet de faire vivre ce podcast. Bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.